Chapitre 23. La conversion. Depuis le jour où j'avais déchiré le visage d'Auguste en galopant dans les épines et où je l'avais jeté dans la boue, le changement dans les manières de mes petits maîtres, de leurs parents, des gens de la maison était visible. Les animaux même ne me traitaient pas comme auparavant. Ils semblaient m'éviter. Quand j'arrivais, ils s'éloignaient. Ils se taisaient en ma présence, car j'ai déjà dit, à propos de mon ami Médor, que nous autres animaux, nous nous comprenons sans parler, comme les hommes, que les mouvements des yeux, des oreilles, de la queue, remplacent chez nous les paroles. Je ne savais que trop ce qui avait causé ce changement, et je m'en irritais plus encore que je ne m'en affligeais, lorsqu'un jour, étant seul comme d'habitude, et couché au pied d'un sapin, je vis approcher Henri et Élisabeth. Ils s'assirent, et ils continuèrent à causer. « Je crois, Henri, que tu as raison, » dit Élisabeth, « et je partage tes sentiments. Moi aussi, je n'aime presque plus Cadichon, depuis qu'il a été si méchant pour Auguste. » « Et ce n'est pas seulement Auguste. Te souviens-tu de la foire de l'aigle, quand il a été si mauvais pour le maître de l'âne savant ?»« Ah oui, je me le rappelle très bien. Il était drôle. Tout le monde riait. Mais tout de même, nous avons tous trouvé qu'il avait montré beaucoup d'esprit, mais pas de cœur. C'est vrai, il a humilié ce pauvre âne et son maître, le faiseur de tours. On m'a dit que le malheureux avait été obligé de partir, sans avoir rien gagné, parce que tout le monde se moquait de lui. Et s'en allant, sa femme et ses enfants pleuraient, et ils n'avaient pas de quoi manger. Et c'était la faute de Cadichon. Certainement, sans lui, le pauvre homme aurait gagné de quoi vivre pendant quelques semaines. Et puis, te rappelles-tu ce qu'on nous a raconté des méchancetés qu'il a faites chez son ancien maître ? Il mangeait les légumes, il cassait les œufs, il salissait le linge. Décidément, je fais comme toi, je ne l'aime plus. » Élisabeth et Henri se levèrent et continuèrent leur promenade. Je restai triste et humilié. D'abord, je voulus me fâcher et chercher une petite vengeance à exercer. Mais je pensais qu'ils avaient raison. Je m'étais toujours vengé. À quoi m'avaient servi mes vengeances ? À me rendre malheureux. D'abord, j'avais cassé les dents, les bras et l'estomac à une de mes maîtresses. Si je n'avais pas eu le bonheur de m'échapper, j'aurais été battu à me faire presque mourir. J'avais fait mille méchancetés à mon autre maître, qui avait été bon pour moi tant que je n'avais pas été paresseux et méchant. Depuis, il m'avait très maltraité, et j'avais été très malheureux. Quand Auguste avait tué mon ami Médor, je n'avais pas réfléchi qu'il l'avait fait par maladresse et non par méchanceté. S'il était bête, ce n'était pas de sa faute. J'avais persécuté ce malheureux Auguste et j'avais fini par le rendre très malade en le jetant dans une mare de boue. Et puis, que de petites méchancetés j'avais faites et que je n'ai pas racontées. J'avais donc fini par ne plus être aimé de personne. J'étais seul. Personne ne venait près de moi me consoler, me caresser. Les animaux même me fuyaient. « Que faire ?» me demandai-je tristement. « Si je pouvais parler, j'irais leur dire à tous que je me repens, que je demande pardon à tous ceux auxquels j'ai fait du mal, que je serai bon et doux à l'avenir. Mais je ne peux pas me faire comprendre. Je ne parle pas. » Je me jetai sur l'herbe et je pleurai. Non pas comme les hommes qui versent des larmes, mais dans le fond de mon cœur, je pleurai. Je gémis sur mon malheur. Et pour la première fois, je me repentis sincèrement. Ah, si j'avais été bon, si au lieu de vouloir montrer mon esprit, j'avais montré de la bonté, de la douceur, de la patience, si j'avais été pour tous ce que j'avais été pour Pauline, comme on m'aimerait, comme je serais heureux. Je réfléchis longtemps, bien longtemps. Je formais tantôt de bons projets, tantôt de méchants. Enfin, je me décidai à devenir bon, de manière à regagner l'amitié de tous mes maîtres et de mes camarades. Je fis immédiatement l'essai de mes bonnes résolutions. J'avais depuis quelque temps un camarade que je traitais fort mal. C'était un âne qu'on avait acheté pour faire monter ceux de mes plus jeunes maîtres, qui avaient peur de moi, depuis que j'avais manqué de noyer Auguste. Les grands seuls ne me craignaient pas, et même lorsqu'on faisait une partie d'âne, le petit Jacques était le seul qui me demanda toujours, au lieu que jadis on se disputait pour m'avoir. Je méprisais ce camarade. Je passais toujours devant lui. Je ruais et je le mordais s'il cherchait à me dépasser. Le pauvre animal avait fini par me céder toujours la première place et se soumettre à toutes mes volontés. Le soir, quand l'heure fut venue de rentrer à l'écurie, je me trouvai près de la porte, presque en même temps que mon camarade. Il se rangea avec empressement pour me laisser entrer le premier. Mais comme il était arrivé quelques pas en avant de moi, je m'arrêtai à mon tour, et je lui fis signe de passer. Le pauvre âne m'obéit en tremblant, inquiet de ma politesse, et craignant que je ne le fisse marcher le premier pour lui jouer quelque tour, par exemple pour lui donner un coup de dent ou un coup de pied. Il fut très étonné de se trouver sain et sauf dans sa stalle, et de me voir me placer paisiblement dans la mienne. Voyant son étonnement, je lui dis « Mon frère, j'ai été méchant pour vous, je ne le serai plus. J'ai été fier, je ne le serai jamais. Je vous ai méprisé, humilié, maltraité, je ne recommencerai pas. Pardonnez-moi, frère, et à l'avenir, voyez en moi un camarade, un ami. » « Merci, frère, » me répondit le pauvre âne, tout joyeux. « J'étais malheureux, je serai heureux. J'étais triste, je serai gai. Je me trouvais seul, je me sentirais aimé et protégé. Merci encore une fois, frère. Aimez-moi, car je vous aime déjà. » À mon tour, frère, de vous dire merci, car j'ai été méchant, et vous me pardonnez. Je reviens à de meilleurs sentiments, et vous me recevez. Je vais vous aimer et vous me donnez votre amitié. Oui, à mon tour, merci frère. » Et tout en mangeant notre souper, nous continuâmes à causer. C'était la première fois, car jamais je n'avais daigné lui parler. Je le trouvais bien meilleur, bien plus sage que je ne l'étais moi-même, et je lui demandais de me soutenir dans ma nouvelle voie. Il me le promit avec autant d'affection que de modestie. Les chevreaux, témoins de notre conversation et de ma douceur inaccoutumée, se regardaient et me regardaient avec surprise. Quoiqu'ils parlassent bas, je les entendais dire. « C'est une farce de cadichon, » dit le premier cheval. « Il veut jouer quelques méchants tours à son camarade. »« Pauvre âne, j'ai pitié de lui, » dit le second cheval. « Si nous lui disions de se méfier de son ennemi. »« Pas tout de suite, » répondit le premier cheval. « Silence, cadichon est méchant. S'il nous entend, il se vengera. » Je fus blessé de la mauvaise opinion qu'avaient de moi ces deux chevaux. Le troisième n'avait pas parlé. Il avait passé sa tête sur la stalle et il m'observait attentivement. Je le regardais tristement et humblement. Il parut surpris, mais il ne bougea pas et resta silencieux, m'observant toujours. Fatigué de ma journée, abattu par la tristesse et le regret de ma vie passée, je me couchai sur la paille. Et je remarquai que mon lit était moins bon, moins épais que celui de mon camarade. Au lieu de m'en fâcher, comme j'aurais fait jadis, je me dis que c'était juste et bien. J'ai été méchant, me dis-je, on m'en punit. Je me suis fait détester, on me le fait sentir. Je dois encore me trouver heureux de n'avoir pas été envoyé au moulin où j'aurais été battu, éreinté, mal couché. Je gémis pendant quelque temps et je m'endormis. À mon réveil, je vis entrer le cocher qui me fit lever d'un coup de pied, détacha mon licou et me laissa en liberté. Je restai à la porte et je le vis avec surprise étrillé, brosser soigneusement mon camarade, lui passer ma belle bride pomponnée, attacher sur son dos ma selle anglaise et le diriger devant le perron. Inquiet, tremblant d'émotion, je le suivis. Quel ne furent pas mon chagrin, ma désolation, quand je vis Jacques, mon petit maître bien-aimé, approcher de mon camarade et le monter, après quelque hésitation. Je restai immobile, anéanti. Le bon petit Jacques s'aperçut de ma peine, car il s'approcha de moi, me caressa la tête et me dit tristement. « Pauvre cadichon, tu vois ce que tu as fait. Je ne peux plus te monter. Papa et maman ont peur que tu ne me jettes par terre. Adieu, pauvre cadichon, sois tranquille, je t'aime toujours. » Et il partit lentement, suivi du cocher qui lui criait. « Prenez donc garde, monsieur Jacques, ne restez pas auprès de Cadichon, il mordra le bourri, il est méchant, vous savez bien. » « Il n'a jamais été méchant avec moi, et il ne le sera jamais, » répondit Jacques. Le cocher frappa l'âne qui prit le trot, et je les perdis bientôt de vue. Je restai à la même place, abîmé dans mon chagrin. Ce qui en redoublait la violence, c'était l'impossibilité de faire connaître mon repentir et mes bonnes résolutions. Ne pouvant plus supporter le poids affreux qui oppressait mon cœur, je partis en courant, sans savoir où j'allais. Je courus longtemps, brisant des haies, sautant des fossés, franchissant des barrières, traversant des rivières. Je ne m'arrêtai qu'en face d'un mur, que je ne pus ni briser ni franchir. Je regardai autour de moi. Où étais-je? Je croyais reconnaître le pays, mais sans toutefois pouvoir me dire où je me trouvais. Je longeai le mur au pas, car j'étais en nage. J'avais couru pendant plusieurs heures, à en juger par la marche du soleil. Le mur finissait à quelques pas, je le tournai, et je reculai avec surprise et terreur. Je me trouvais à deux pas de la tombe de Pauline. Ma douleur n'en devint que plus amère. « Pauline, ma chère petite maîtresse, m'écriai-je, vous m'aimiez parce que j'étais bon. Je vous aimais parce que vous étiez bonne et malheureuse. Après vous avoir perdue, j'avais trouvé d'autres maîtres qui étaient bons comme vous, qui m'ont traité avec amitié. J'étais heureux. Mais tout est changé. Mon mauvais caractère, le désir de faire briller mon esprit, de satisfaire mes vengeances, ont détruit tout mon bonheur. Personne ne m'aime à présent. Si je meurs, personne ne me regrettera. » Je pleurai amèrement, au-dedans de moi-même, et je me reprochais pour la centième fois mes défauts. Une pensée consolante vint tout à coup me rendre du courage. « Si je deviens bon, me dis-je, si je fais autant de bien que j'ai fait de mal, mes jeunes maîtres m'aimeront peut-être de nouveau. Mon cher petit Jacques, surtout, qui m'aime encore un peu, me rendra toute son amitié. Mais comment faire pour leur montrer que je suis changé et repentant ? Pendant que je réfléchissais à mon avenir, j'entendis des pas lourds approcher du mur, et une voix d'homme parler avec humeur. « Comment pleurer, Nigo ? Les larmes ne te donneront pas de pain, n'est-il pas vrai ? Puisque je n'ai rien à vous donner, que voulez-vous que j'y fasse ? Crois-tu que j'ai l'estomac bien rempli, moi, qui n'ai pas avalé depuis hier matin que de l'air et de la poussière ? Je suis bien fatigué, père. Eh bien, reposons-nous un quart d'heure, à l'ombre de ce mur. Je le veux bien. » Ils tournèrent le mur et vinrent s'asseoir près de la tombe où j'étais. Je reconnus avec surprise le pauvre maître de Mirliflor, sa femme et son fils. Tous étaient maigres et semblaient exténués. Le père me regarda, parut surpris, et dit, après quelque hésitation, « Si je vois clair, c'est bien l'âne, le gredin d'âne qui m'a fait perdre à la foire de l'aigle plus de 50 francs. Coquin » continua-t-il en s'adressant à moi. « Tu as été cause que mon Mirliflor a été mis en pièces par la foule. Tu m'as empêché de gagner une somme d'argent qui m'aurait fait vivre pendant plus d'un mois. Tu me le paieras, va !» Il se leva, s'approcha de moi. Je ne cherchais pas à m'éloigner, sentant bien que j'avais mérité la colère de cet homme. Il parut étonné. « C'est donc pas lui, dit-il, car il ne bouge pas plus qu'une bûche. »« Le bel âne, ajouta-t-il en me tâtant les membres. Si je pouvais l'avoir seulement un mois, tu ne manquerais pas de pain, mon garçon, ni ta mère non plus, et j'aurais l'estomac moins creux. » Mon parti fut pris un instant. Je résolus de suivre cet homme pendant quelques jours, et tout souffrir pour réparer le mal que je lui avais fait, et de l'aider à gagner quelque argent pour lui et sa famille. Quand ils se remirent en marche, je les suivis. Ils ne s'en aperçurent pas d'abord, mais le père, s'étant retourné plusieurs fois et me voyant toujours sur leurs talons, voulut me faire partir. Je refusai et je revins constamment reprendre ma place, près ou derrière eux. « Est-ce drôle ? » dit l'homme. « C'est âne qui s'obstine à nous suivre. Ma foi, puisque cela lui plaît, il faut le laisser faire. » En arrivant au village, il se présenta à un aubergiste et lui demanda à dîner et à coucher, tout en disant fort honnêtement qu'il n'avait pas un sou dans la poche. « J'ai assez de mendiants du pays, sans y ajouter ceux qui ne sont pas, mon bonhomme, » répondit l'aubergiste. « Allez chercher un gîte ailleurs. » Je m'élançai de suite près de l'aubergiste, que je saluai à plusieurs reprises de façon à le faire rire. « Vous avez là un animal qui me paraît pas bête, » dit l'aubergiste en riant. « Si vous voulez nous régaler de ces tours, je veux bien vous donner à manger et à coucher. » « Ce n'est pas de refus, » répondit l'homme. « Nous vous donnerons une représentation, mais quand nous aurons quelque chose dans l'estomac. À jeun, on n'a pas la voix propre au commandement. »« Entrez, entrez, on va vous servir de suite, » reprit l'aubergiste. « Madelon, ma vieille, donne à dîner à trois, sans compter le bourri. » Madelon leur servit une bonne soupe, qu'ils avalèrent en un clin d'œil, puis un bon bouilli au chou, qui disparut également. Enfin, une salade et du fromage qu'ils savourèrent avec moins d'avidité, leur faim se trouvant apaisée. On me donna une botte de foin. J'en mangeai à peine. J'avais le cœur gros et je n'avais pas faim. L'aubergiste alla convoquer tout le village pour me voir saluer. La cour se remplit de monde et j'entrai dans le cercle où m'amena mon nouveau maître, qui se trouvait fort embarrassé, ne sachant pas ce que je savais faire et si j'avais reçu une éducation d'un savant. À tout hasard, il me dit « Saluez la société !» Je saluai à droite, à gauche, en avant, en arrière, et tout le monde d'applaudir. « Que vas-tu lui faire faire ?» dit tout bas sa femme. « Il ne saura pas ce que tu lui veux. Peut-être l'aura-t-il appris. Les ânes savants sont intelligents. Je vais toujours essayer. » « Allons, Mirliflore !» Ce nom me fit soupirer. « Va embrasser la plus jolie dame de la société. » Je regardai à droite, à gauche. J'aperçus la fille de l'aubergiste, jolie brune de 15 à 16 ans, qui se tenait derrière tout le monde. J'allai à elle, j'écartai avec ma tête ceux qui gênaient le passage, et je posai mon nez sur le front de la petite, qui se mit à rire et qui parut contente. « Dis donc, Père Hautefeur, vous lui avez fait la leçon, pas vrai ?» dirent quelques personnes en riant. « Nom d'honneur, » répondit Hautefeur, « je m'y attendais seulement pas. » « À présent, Mirliflore, » dit l'homme, « va chercher quelque chose, n'importe quoi, ce que tu pourras trouver, et donne-le à l'homme le plus pauvre de la société. » Je me dirigeai vers la salle où l'on venait de dîner, et je saisis un pain, et, le rapportant en triomphe, je le remis entre les mains de mon nouveau maître. Rire général, tout le monde applaudit. Un ami s'écria, « Ceci n'est pas de vous, Père Hautefeur. Cet âne a réellement du savoir. Il a bien profité des leçons de son maître. « Allez-vous lui laisser son pain tout de même ?» dit quelqu'un dans la foule. « Pour ça, non, » dit Hautefeur. « Rendez-moi cela, l'homme à l'âne. Ce n'est pas dans nos conventions. » « C'est vrai, » répondit l'homme. « Et pourtant, mon âne a dit vrai, en faisant de moi l'homme le plus pauvre de la société, car nous n'avions pas mangé depuis hier matin, ma femme, mon fils et moi, faute de 2 sous pour acheter un morceau de pain. « Laissez-leur ce pain, mon père, » dit Henriette Hautefeur. « Nous n'en manquons pas dans la huche, et le bon Dieu nous fera regagner celui-ci. » « Tu es toujours comme ça, toi, Henriette, » dit Hautefeur. « Si on t'écoutait, on donnerait tout ce qu'on a. »« Nous ne sommes pas plus pauvres, mon père. Le bon Dieu a toujours béni nos récoltes et notre maison. »« Allons, puisque tu le veux, qu'il garde son pain, je le veux bien. » À ces mots, j'allai à lui et je le saluai profondément. Puis j'allai prendre dans mes dents une petite terrine vide et je la présentai à chacun pour qu'il y mît son aumône. Quand j'eus fini ma tournée, la terrine était pleine. J'allai la vider dans les mains de mon maître. Je la reportai où je l'avais prise. Je saluai et je me retirai gravement aux applaudissements de la société. J'avais le cœur content. Je me sentais consolé et affermi dans mes bonnes résolutions. Mon nouveau maître paraissait enchanté. Il allait se retirer lorsque tout le monde l'entoura et le pria de donner une seconde représentation le lendemain. Il le promit avec empressement et alla se reposer dans la salle avec sa femme et son fils. Quand ils se trouvèrent seuls, la femme regarda de tous côtés, et ne voyant que moi, la tête posée sur l'appui de la fenêtre, elle dit à son mari à voix basse. « Dis donc, mon homme, c'est tout de même fort drôle. Est-ce singulier cet âne qui nous arrive sortant d'un cimetière, qui nous prend en gré et qui nous fait gagner de l'argent? Combien l'as-tu dans tes mains ?»« Je n'ai pas encore compté, » répondit l'homme. « Aide-moi, tiens, voici une poignée, à moi l'autre. »« J'ai 8 francs 4 sous. » dit la femme après avoir compté. « Et moi, j'en ai 7,50. Cela fait... Combien cela fait-il, ma femme ?»« Combien cela fait-il ? 8 et 4 font 13, puis 7 font 24, puis 50, ça fait quelque chose comme 60. »« Que tu es bête, va ! J'aurai 60 francs dans les mains ? Pas possible. Voyons, mon garçon, toi qui as étudié, tu dois savoir ça. » « Vous dites, papa ?»« J'ai dit 8 francs 4 sous d'une part et 7 francs 50 de l'autre. »« 8 et 4 font 12, retiens 1, plus 7 font 20, retiens 2, plus 50 font 50, 52 retiens 5. »« Imbécile ! Comment cela fait-il 50 puisque j'ai 8 dans une main et 7 dans l'autre ? » Et puis 50, papa ?
Et puis 50, papa ?
Tu ne vois pas, grand Nigo, que c'est 50 centimes que je dis, et les centimes ne sont pas des francs.
Non, papa, mais ça fait toujours 50.
50 quoi ? Est-il bête ? Est-il bête ? Si je te donnais 50 taloches, ça te ferait-il 50 francs ?
Non, papa, mais ça ferait toujours 50.
En voilà une aconte, grand animal. Et il lui donna un soufflet qui retentit dans la maison. Le garçon se mit à pleurer. J'étais en colère. Si ce pauvre garçon était bête, ce n'était pas de sa faute. Cet homme ne mérite pas ma pitié, me dis-je. Il a, grâce à moi, de quoi vivre pendant 8 jours. Je veux bien encore lui faire gagner sa représentation de demain, après quoi je retournerai chez mes maîtres. Peut-être m'y recevra-t-on avec amitié. Je me retirai de la fenêtre et j'allai manger des chardons qui poussaient au fond d'un fossé. J'entrai ensuite dans l'écurie de l'auberge, où je trouvais déjà plusieurs chevaux occupant les meilleures places. Je me rangeai dans un coin dont personne n'avait voulu. J'y pus réfléchir à mon aise, car personne ne me connaissait et personne ne s'occupait de moi. À la fin de la journée, Henriette Hotfer entra à l'écurie, regarda si chacun avait ce qu'il fallait, et m'apercevant, dans mon coin humide et obscur, sans litière, sans foin ni avoine, elle appela un des garçons d'écurie. « Ferdinand, dit-elle, donnez de la paille à ce pauvre âne, pour qu'il ne se couche pas sur la terre humide. Mettez devant lui un picotin d'avoine et une botte de foin, et voyez s'il ne veut pas boire. »
« Mademoiselle Henriette, vous ruinerez votre papa. Vous êtes trop soigneuse pour le monde. Que vous importe que cette bête couche sur de la dure ou sur une bonne litière? C'est de la paille gâchée, ça. »
« Vous ne trouvez pas que je suis trop bonne ? Quand c'est vous que je soigne, Ferdinand ?
Je veux que tout le monde soit bien traité ici, les bêtes comme les hommes. »«
Sans compter, dit Ferdinand d'un air malin, qu'il y a pas mal d'hommes qu'on prendrait volontiers pour des bêtes, quoiqu'ils marchent sur 2 pieds. »
Henriette répondit souriant. « Voilà pourquoi on dit « bête à manger du foin ». »«
Ce ne sera pas toujours à vous, mademoiselle, que je servirai une botte de foin. Vous avez de l'esprit. » Et de la malice, comme un singe.
Merci du compliment, Ferdinand. Qu'êtes-vous donc, si je suis un singe ?
Ah, mademoiselle, je n'ai point dit que vous étiez un singe. Et si je me suis mal exprimé pour cela, mettez que je suis un âne, un cornichon, une oie.
Non, non, pas tant que cela, Ferdinand. Mais seulement un babillard qui parle quand il devrait travailler. Faites la litière de l'âne, ajouta-t-elle, d'un ton sérieux, et donnez-lui à boire et à manger. Elle sortit. Ferdinand fit, en grommelant, ce que lui avait ordonné sa jeune maîtresse. En faisant ma litière, il me donna quelques coups de fourche, me jeta avec humeur une botte de foin, une poignée d'avoine, et posa près de moi un seau d'eau. Je n'étais pas attaché. J'aurais pu m'en aller, mais j'aimais mieux souffrir encore un peu et donner le lendemain, pour achever ma bonne œuvre, ma seconde et dernière représentation. En effet, quand la journée du lendemain fut avancée, on vint me prendre. Mon maître m'amena sur une grande place qui était pleine de monde. On m'avait tambouriné le matin, c'est-à-dire que le tambour du village s'était promené partout, de grand matin en criant « Ce soir, grande représentation de l'âne savant d'Mirliflore, on se réunira à 8 heures sur la place, en face la mairie et l'école. » Je commençais les tours de la veille, et j'y ajoutais des danses exécutées avec grâce. Je valsais, je polquais, et je jouais à Ferdinand le tour innocent de l'engager à valser en braillant devant lui, et en lui présentant le pied de devant comme pour l'inviter. Il refusa d'abord, mais comme on criait « Oui, oui, une valse avec l'âne !» il s'élança dans le cercle en riant, et il se mit à faire 1000 sauts et gambades que j'imitais de mon mieux. Enfin, me sentant fatigué, je laissai Ferdinand gambadant tout seul. J'allais, comme la veille, chercher une terrine. N'en trouvant pas, je pris dans mes dents un panier sans couvercle, et je fis le tour, comme la veille, présentant mon panier à chacun. Il fut bientôt si plein que je dus le vider dans la blouse de celui qu'on croyait mon maître. Je continuai la quête. Quand tout le monde m'eut donné, je saluai la société, et j'attendis que mon maître eût compté l'argent que je lui avais fait gagner ce soir-là, et qui se montait à plus de 34 francs. Trouvant que j'avais assez fait pour lui, que mon ancienne faute était réparée et que je pouvais retourner chez moi, je saluai mon maître et, fendant la foule, je partis au trot.
« Tiens, voilà votre bourré qui s'en va, » dit Hotfer l'aubergiste.
« C'est qu'il file joliment, » dit Ferdinand.
Mon prétendu maître se retourna, me regarda d'un air inquiet, m'appela « Mirliflor ! Mirliflor !» Et me voyant continuer mon trot, je l'entendis s'écrier d'un ton piteux « Arrêtez-le ! Arrêtez-le de grâce ! C'est mon pain, ma vie, qui l'emporte ! Courez, attrapez-le ! Je vous promets encore une représentation si vous me le ramenez !»«
D'où l'avez-vous donc, cette âne ?» dit un des hommes nommé Cloué. « Depuis quand l'avez-vous ?»«
Je l'ai, depuis qu'il est à moi !» répondit mon faux maître avec un peu d'embarras.
« J'entends bien, » reprit Cloué. « Mais depuis quand est-il à vous ?»
L'homme ne répondit pas.
« C'est qu'il me semble bien le reconnaître, » dit Cloué.
« Il ressemble à Cadichon, l'âne du château de la Herpinière. Je serais bien trompé si ce n'est pas là Cadichon. »
Je m'étais arrêté, j'entendais des murmures, je voyais l'embarras de mon maître lorsqu'au moment où l'on s'y attendait le moins, il s'élança au travers de la foule et courut du côté opposé à celui que j'avais pris, suivi de sa femme et de son garçon. Quelques-uns voulurent courir après lui, d'autres dirent que c'était bien inutile, puisque je m'étais sauvé et que l'homme n'emportait que l'argent qui était à lui, et que je lui avais fait gagner honnêtement.
« Et quant à Cadichon, ajouta-t-on, il ne sera pas embarrassé pour retrouver son chemin, et ne se laissera prendre que s'il le veut bien. »
La foule se dispersa, et chacun rentra chez soi. Je repris ma course, espérant arriver chez mes vrais maîtres, avant la nuit. Mais il y avait beaucoup de chemin à faire, j'étais fatigué, et je fus obligé de me reposer à une lieue du château. La nuit était venue, les écuries devaient être fermées, je me décidai à coucher dans un petit bois de sapin qui bordait un ruisseau. J'étais à peine établi sur mon lit de mousse, que j'entendis marcher avec précaution et parler bas. Je regardai, mais je ne vis rien. La nuit était trop noire. J'écoutai de toutes mes oreilles et j'entendis la conversation suivante.